Que dire de plus? Je ne sais même pas si je vais dire quelque chose, parce que Henri, tu as tout dit. Tu as résumé en fait ce que j'allais dire ce matin. Mais enfin, je vais quand même vous exposer ce que j'ai préparé pour vous. Chers amis, merci d'avoir répondu à notre invitation pour vivre ensemble cet instant. Comme il était dit dans l'annonce, qui sont les protestants? Ben, des gens tout à fait normaux. Hein. Regardez-moi. Je suis tout à fait normal, enfin je crois. Nous aimons bien manger, boire un bon verre de vin. Pour certains, d'autres c'est du coca, mais enfin voilà. On a des occupations, on a un travail, on a des loisirs. Bref, des gens normaux. Voilà ce qui sont, font les protestants. Mais en fait, notre foi, vous le verrez, est basé sur la Bible, et Henri vous en a parlé ce matin. Chaque fois qu'il a donné des citations, ce sont toujours des citations qui sont tirées de la Bible. Et c'est sur la Bible qu'est basée, en fait, notre foi. Ce n'est pas sur un autre credo, mais c'est sur la Bible qui est la parole de Dieu. Et aussi, la prière. Nous avons des moments libres de prière, nous avons des moments chez nous. Cette prière qui est une relation entre nous et Dieu, la façon de parler avec lui comme nous vous parlons, tout à fait simplement. Alors ce matin, mon propos ne sera pas de vous faire devenir protestant. Non, ce n'est pas mon but de vous faire devenir protestant. Là, peut-être Henri, tu vas être déçu, mais c'est comme ça. C'est comme ça, non. Je vais vous parler de celui que nous avons rencontré. Ou plutôt de celui qui est venu à notre rencontre. Donc, mon propos ce matin ne sera pas de vous faire changer de religion, rassurez-vous, gardez bien la vôtre, mais de vous parler d'une personne extraordinaire qui peut changer toute chose si vous le laissez faire dans votre vie. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Enfin, rassurez-vous, je n'essaierai pas de vous embrigader dans une secte, dans un système quelconque. Non, on ne prendra pas vos noms et adresses pour vous embêter, quoique je connais l'adresse de certains, mais l'entrée ici sera libre, gratuite, et la sortie aussi. Donc rassurez-vous de ce côté-là. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons prendre la parole de Dieu, qui est la Bible, pour la lire, la méditer pendant quelques instants. Et le propos de ce matin se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. C'est une lecture un peu longuette, mais bon, elle est nécessaire pour un peu comprendre ce que je vais vous exposer. Donc, c'est l'évangile de Jean, chapitre 1er. Il nous est dit ceci: au commencement de toute chose, la parole existait, la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement, tout est venu à l'existence par elle et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. La parole est devenue un homme et il habitait parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: « C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « Il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul, l'a fait connaître. Au commencement des mondes, Dieu était. Dieu est éternel. Et quand il se révèle à Moïse, il donne son nom en disant « Je suis ». Dieu s'appelle « Je suis » parce qu'il était, il est et il sera toujours. Et la parole dont il est question dans ce texte, par laquelle tout existe, fut cette force créatrice, c'est-à-dire la parole. Cela sous-entendu Dieu, créateur, et Jésus qui était avec le Père après, dès la fondation des mondes. Nous, chrétiens et protestants, nous sommes, qu'on le veuille ou pas, nous sommes des créationnistes. Nous croyons que toute la création est l'œuvre d'un être supérieur, c'est-à-dire Dieu. Nous croyons la Bible, parole de Dieu. Ce livre révèle qui est Dieu et son Fils. Et nous croyons fermement en cette révélation. Et nous mettons toute notre foi en cette parole, qui pour nous est notre livre de chevet en quelque sorte. Bien sûr, quand nous regardons tout autour de nous, cette merveilleuse création que malheureusement l'homme a complètement détruite, malmenée, nous pouvons dire tout cela n'est pas venu tout seul, tout cela n'est pas venu par hasard. N'en déplaise aux évolutionnistes, car je crois qu'il faut encore avoir une plus grande foi que nous les chrétiens pour croire en cette évolution. Tout ça, ça a évolué pendant des milliards et des milliards d'années pour en arriver à nous. Alors qu'il est si facile de croire que Dieu a créé quelque chose. Eh bien, du reste, cette évolution n'est qu'une théorie. Et comme toute théorie, elles évoluent pour arriver à se neutraliser, à se détruire et à reprendre une autre théorie, finissant souvent par se contredire. Ce premier chapitre de l'évangile de Jean est en quelque sorte une présentation de ce fameux Jésus dont les chrétiens parlent toujours. Et ce personnage qui a tellement fait couler d'encre depuis des siècles et qui en fait encore couler aujourd'hui. Jésus a dit « Je suis venu apporter la division ». Waouh ! Dieu, par Jésus-Christ, il dit « Je suis venu apporter la division ». Et c'est vrai. Le monde est divisé parce que combien de pays n'ont pas cette liberté d'expression et de religion et que beaucoup de chrétiens sont combattus parce qu'ils croient en Jésus. Combien de familles peut-être sont divisées parce que certains croient en Dieu et d'autres pas, et alors on ne se fréquente plus. Cette force créatrice dont il est question dans ce récit est venue se révéler au monde et aux hommes, tout d'abord sous la forme d'un enfant. Et ça a déjà commencé à faire du raffut à l'époque, car quand le roi Hérode a appris qu'un nouveau roi allait naître, ça ne lui plaisait pas, il avait peur de perdre son trône, et un massacre d'innocents a été perpétré sous la direction du roi Hérode. Ensuite, cet enfant a grandi, a travaillé, et puis il a commencé son ministère. Ministère très controversé, surtout par les hommes religieux de l'époque, parce que Jésus, n'en déplaise à certains, il était anti-religieux. Ouais, Jésus était anti-religieux, il ne supportait pas les religieux de l'époque, qui étaient des gens très rigoristes, qui voulaient suivre la loi sans amour. Il n'y avait aucun amour dans leur façon de diriger le peuple dans la croyance. Et Jésus ne pouvait pas supporter cela. Et la division a commencé, car certains ont cru à cette parole. Et ils se sont engagés à le suivre. D'autres l'ont rejeté. Tout comme en ce 21e siècle, on aime Jésus ou on le déteste. Et quand vous dites aujourd'hui aux gens que vous êtes croyants, on vous regarde comme un extraterrestre. Parce que dans ce 21e siècle, c'est un peu bizarre de croire encore qu'il y ait un Dieu qui dirige toute chose, qu'il y ait un Dieu qui peut s'occuper de nous. C'est pas possible. Ce monde scientifique, ce monde qui croit tellement aux vertus de la science, ne peut pas comprendre que des gens encore normaux comme moi croient encore en Dieu, pensent que Dieu peut encore faire quelque chose dans la vie de chacun. Et au fond, quel était le but et la mission de Jésus en venant sur la terre ? Créer une nouvelle religion ? Eh bien non, Jésus est venu nous présenter Dieu, le Père, afin que nous connaissions par lui cette trinité qui est le Père qui a envoyé le Fils et que le Fils va amener plus tard l'Esprit Saint pour nous diriger. Et Dieu voulait faire de nous, par Jésus-Christ, ses enfants d'adoption, car au fond nous étions loin, loin de lui, faisant de nous des chrétiens, des croyants, des chrétiens, comme ces chrétiens du premier temps, ces croyants du premier temps qui ont été appelés chrétiens. Sa mission première était d'apporter le salut à l'humanité et la délivrer de la condamnation issue du péché originel. Le dictionnaire Larousse nous dit que la signification d'être chrétien est celui de quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ et qui a reçu le baptême. Voilà la définition du dictionnaire. Et les dénominations différentes que nous connaissons actuellement se sont constituées au fil des siècles, au fond. Jésus n'a jamais dit « je vais créer le catholicisme, je vais créer le protestantisme » quand il est venu. Non. Bien souvent, ce sont des schismes ou des bouleversements que l'Église a connus au travers des siècles qui ont favorisé toutes ces dénominations différentes. Le verset 13 de ce chapitre nous déclare que l'on devient enfant de Dieu par une intervention divine. L'on n'est pas chrétien, on le devient. Je n'ai pas hérité de la foi de mes parents, non. J'ai dû prendre un engagement personnel de dire « oui, je crois en toi Seigneur ». C'est un engagement personnel que la foi. Nous ne pouvons pas bénéficier de la foi de nos parents, ça ne servirait à rien. Et il est dit ceci au verset 13 de la lecture que j'ai faite, « ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. » Et je vais développer ce matin cette partie importante de mon propos, tout cela brièvement. Et je vais reprendre une autre lecture, aussi un peu longue, mais nécessaire pour comprendre ce que je vais vous expliquer. Nous la trouvons toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, pour ceux qui veulent le lire dans leur Bible. Et cette fois-ci encore, je l'ai pris dans la version en français, nouveau français courant. Il y avait un homme parmi les pharisiens, appelé Nicodème, qui était l'un des dirigeants juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu, car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda « Comment ? Quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau ? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ?» Jésus répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit « il faut tous naître de nouveau ». L'esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne sais pas ces choses. » « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons, et nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Je vous ai parlé de ce qui se passe sur cette terre, et vous ne m'avez pas cru. Comment me croirez-vous si je vous parle de ce qui se passe dans les cieux ? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que tout le monde croie en lui et la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment le jugement se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les êtres humains ont préféré l'obscurité à la lumière, parce qu'ils font ce qui est mal. Celui qui fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ces actions sont accomplies en Dieu. Ce texte nous livre l'histoire d'une rencontre entre Jésus et un pharisien nommé Nicodème. Un homme très religieux, mais surtout un homme en recherche, non satisfait de sa religion. Cette rencontre est très intéressante pour qui est en recherche. C'est peut-être votre cas ce matin, vous recherchez peut-être la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Quelles sont les meilleures religions dans ce monde? Cet homme, au début de son entretien, voulait conduire Jésus sur un terrain très religieux ou philosophique. Et il use de flatterie envers Jésus, et Jésus n'a jamais beaucoup aimé la flatterie. En quelque sorte, il voulait mettre Jésus dans sa poche par toutes ces flatteries. Mais Jésus ne se laisse pas piéger. Jésus conduit directement cette conversation sur un plan spirituel et profond. Il va lui démontrer que ce message n'est pas un message philosophique. Non, ce message est un message de transformation de l'être intérieur. Il va conduire Nicodème sur un autre terrain, non pas sur le terrain que Nicodème voulait emprunter. Directement, Jésus parle de la façon de comment accéder à Dieu. Certainement pas par la philosophie ou par la religiosité, ni par les bonnes œuvres, nous l'a été dit tout à l'heure par Henri, que nous pouvons peut-être accomplir, que nous voulons accomplir pour obtenir une grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire de bonnes œuvres, je ne dis pas qu'on ne doit pas faire le bien autour de nous, mais ce n'est pas ça qui va nous rapprocher de Dieu, qui va nous sauver. Jésus envoie vraiment du lourd directement. Il parle d'une nouvelle naissance par laquelle il faut passer pour rencontrer Dieu. Naître de nouveau, voilà ce que Nicodème entend. Et Nicodème est abasourdi. C'est un discours tout à fait nouveau pour lui. Il n'a jamais entendu les religieux parler comme cela. Il ne comprend pas ce que Jésus veut dire. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire par là, Seigneur? Comment une personne âgée peut-elle renaître, retourner dans le ventre de sa mère? Mais c'est impossible. Nicodème était certainement une personne âgée. Sa mère était sûrement décédée. Comment peut-il espérer encore renaître? Mais Jésus parlait d'une naissance spirituelle. L'on ne peut pas devenir chrétien sans nouvelle naissance. Il ne s'agit pas de se convertir à une religion, comme je l'ai dit, ou à un système religieux, mais devenir enfant de Dieu. Voilà la différence. Accepter que Jésus nous transforme, que Jésus fasse de nous un être nouveau. C'est cela, naître de nouveau. Jésus doit nous transformer. Il doit enlever notre ancienne vie. Cette ancienne vie doit disparaître et devenir comme Jésus. En fait, tendre vers la perfection, jour après jour. Mais cette perfection, bon, malheureusement, elle n'est pas de ce monde. Mais nous devons vivre conformément à sa parole, être une lumière dans un monde de ténèbres. Changer de mentalité, changer notre façon de vivre avec Jésus pour aide. Nous naissons d'une manière humaine par la volonté de nos parents. Au verset 13 du chapitre 1er, il nous démontre que la nouvelle naissance est une naissance surnaturelle, dû par la volonté de Dieu qui veut nous changer. Il est dit, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Voilà. Et le verset 8 de la deuxième lecture que nous avons faite, il compare la nouvelle naissance à la force du vent. Il lui dit, l'esprit, comme le vent, souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'esprit. Comparer la nouvelle naissance à la force du vent. Le vent est une force invisible, et pourtant nous sentons le vent. Nous sentons le vent quand il nous fouette, quand il fait froid, quand c'est un vent froid, quand c'est un vent chaud. Mais nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons que le sentir. Nous pouvons voir les effets positifs ou négatifs de la force éolienne. Et la puissance et la force de Dieu est semblable à la force du vent, les dégâts négatifs en moins. Quand nous laissons Dieu nous diriger dans vie, il nous façonne, nous modèle, nous transforme. Et c'est cela, la nouvelle naissance dont parle Jésus. Nous abandonner complètement à Dieu. Et en ce moment, Nicodème est complètement déstabilisé. Il ne s'attendait pas à être conduit sur ce terrain, ni à entendre pareille réponse de Jésus. Et beaucoup de personnes sont déstabilisées quand ils nous demandent la raison de notre foi. Car la question est souvent, quelle est la différence entre un catholique et un protestant? C'est souvent ce qu'on nous dit. Ou, quelle est la différence avec les orthodoxes et les catholiques? Et la réponse de Jésus est, tu dois naître de nouveau, c'est tout. C'est pas ça qui est important. Et des chrétiens nés de nouveau, nous en trouvons chez les catholiques, nous en trouvons chez les protestants, nous en trouvons chez les orthodoxes, chez les évangéliques. Quand l'Église a été créée, au départ, ce sont des Juifs qui ont entendu les premiers le message de l'Évangile. Et puis tout doucement, ce qu'on appelait les païens sont venus à la connaissance de l'Évangile. Et les Juifs attachaient une grande importance à la circoncision. Car dans la religion juive, c'était pour eux un signe, cette alliance, cette circoncision pour les garçons, cette alliance entre Dieu et les hommes, une alliance qui était visible. Et à ce moment-là, c'était très important pour les Juifs que les gens qui venaient à l'Évangile soient circoncis, comme ça, ils pouvaient être... C'était un signe qui se rapprochait de Dieu. Et l'apôtre Paul, qui, voyant et entendant ces choses-là, il leur dit dans l'Épître aux Galates, « C'est pourquoi être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. » Et il ajoute, « Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. » Et moi, je vais paraphraser Paul en disant aujourd'hui, « Être catholique, protestant, orthodoxe ou évangélique n'a aucune importance. » Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle création. C'est ça qui est important. C'est ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est pas apporter une nouvelle religion au monde. Il y en a déjà assez de religions de toutes sortes. Ce qui est important, c'est d'être de nouveau des hommes et des femmes qui ne vivent pas une religion, mais une relation avec Dieu. C'est cela que Dieu nous demande. Comme un père avec ses enfants, entre parents et enfants, nous ne vivons pas une religion, nous vivons une relation. Une relation d'amour. Et c'est cela, la relation avec Dieu. C'est basé sur l'amour que Dieu a pour nous. Et voilà ce que nous vivons chaque jour en tant que chrétiens, une vraie relation avec Dieu. Au jour du jugement que nous serons devant le trône de Dieu, il ne vous demandera pas « De quelle religion es-tu ?» Tu allais à la communauté protestante de Blenier. T'as bien fait, hein, c'est la meilleure de Belgique. Mais non, c'est pas ça que Jésus va nous demander. Il va simplement regarder si nous sommes inscrits dans le livre de vie et si nous sommes devenus une nouvelle création et si nous sommes ses enfants. En fait, voilà la réponse à laquelle Nicodème avait besoin d'entendre. Réponse qu'il n'attendait pas. Et encore aujourd'hui, c'est une réponse qui surprend plus d'un. Le verset 13 du chapitre 3 nous dit « Personne n'est jamais monté au ciel, mais c'est Jésus qui est descendu vers nous. » Et l'astronaute James Irwin, qui a marché sur la Lune, a dit ceci « Le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu a marché sur la terre dans le corps de Jésus-Christ. » Voilà l'important. Voilà le message de l'Évangile. Un Dieu venant à la rencontre de l'homme par Jésus-Christ. Car l'humanité est séparée de Dieu par le péché. Ouais, encore un vilain mot, hein, ça. Péché, c'est un vilain mot parce qu'on n'aime plus entendre ce mot-là. Parce qu'on banalise un peu tout ce qui est mal maintenant. Et l'on ne prononce plus ce mot-là dans notre époque permissive. Le message que Jésus annonce encore à l'humanité n'est pas une xième religion. Non, nous n'avons pas besoin de cela. Il y en a bien trop. Le message est un message de libération. Voilà l'Évangile. Libération de l'esprit. Un message de transformation d'une vie. Jésus propose la vie éternelle au verset 15, ce que tout homme aimerait posséder. Et les chercheurs y travaillent. Mais l'homme est un être mortel. Et cette vie éternelle, Dieu ne la propose pas à notre corps. Notre corps n'étant qu'une enveloppe. Renfermant notre âme. Ne parle-t-on pas d'une dépouille mortelle quand on parle d'un défunt? Et c'est dépouillé, comme un papillon provient d'une chenille, c'est un peu cela, notre âme qui s'en va vers Dieu. Oui, cette enveloppe contient notre âme, chers amis, qui doit retourner à Dieu, son Créateur. Mais alors, comment obtenir cette vie éternelle? Au verset 16 du chapitre 3, il nous est dit pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Parce que Dieu, le Père, nous aimait. Il dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a aimé, donc il a donné. Il a donné quoi? Mais son Fils. Ce monde qui a tourné le dos à Dieu, Dieu l'aime au point d'y envoyer son Fils tout en sachant quelle sera la fin tragique de ce Jésus. Dieu a voulu réconcilier l'humanité par amour. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique. Lui seul juste qui ait foulé cette terre de misère, il a donné sa vie volontairement afin de réconcilier le monde avec le Père Créateur. Et ce verset est très connu dans l'évangile de Jean qui dit en effet « Dieu a tant aimé le monde », Henri nous l'a cité, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle ». Voilà le message central de l'évangile. C'est ça l'évangile. Non pas la création d'une nouvelle religion, mais une nouvelle naissance. Voilà ce que Dieu propose à tout être humain. Bien sûr, Dieu nous laisse libres. Libres d'accepter son invitation. Libres d'accepter, libres de refuser. Jamais il ne forcera personne à prendre cette décision. Dieu laisse l'homme libre. Il nous a toujours laissés libres. C'est l'homme qui s'enferme parfois dans certaines choses, qui ne libère pas. Et au verset 17, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Oh, on voit vraiment Dieu comme un vieux barbu aigri, solitaire là bien haut, avec son doigt vengeur et vindicatif. Il dit, toi, t'as fait des sales trucs, hein. Oh, toi, je vais te punir, tu vas rôtir en enfer. Non, c'est pas ça, Dieu. Quelle image a-t-on de Dieu? Dieu n'est pas venu pour nous juger. Avec son doigt vengeur, accusateur, pointé sur nous, il vient pour sauver et nous proposer une vie nouvelle avec lui, nous donnant ainsi la possibilité de naître de nouveau. En effet, versets 20 et 21, « En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. » Si nous haïssons le mal, chers amis, nous venons alors vers le bien. Et le bien s'appelle Jésus. Et nous venons à la lumière. Paradoxalement, nos œuvres changent, car nées de nouveau, le changement se manifeste, le changement est visible dans notre vie. Notre entourage verra que nous sommes des enfants de lumière, que nous ne l'acceptons plus, ce que nous acceptions auparavant. Non, Jésus ne veut pas faire de nous des religieux, mais des hommes et des femmes nés de nouveau. Par le biais de la nouvelle naissance, il désire une relation père-fils avec nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure en commençant, nous ne sommes pas différents de vous. Nous avons les mêmes besoins. Nous avons besoin de travailler. Nous avons une famille, des enfants. Nous aimons bien boire, manger, comme tout le monde. Mais nous avons connu cette nouvelle naissance qui nous différencie peut-être en nous réconciliant avec Dieu. C'est cela la clé de la foi, notre relation avec lui. Alors, je lance simplement cet appel. Il se trouve dans l'Épître aux Corinthiens, et l'apôtre Paul dit ceci, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. » Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est cela, naître de nouveau, c'est être réconcilié, ne plus être en froid avec Dieu, avoir une relation d'amour, une relation amicale, une relation normale avec Dieu. Nous pouvons lui parler comme nous vous parlons. Nous avons cette relation avec lui. Nous ne sommes pas entrés en religion. Nous sommes entrés en relation avec Dieu. Voilà toute la différence. Voilà enfin ce que nous croyons nous les protestants, et pas simplement les protestants. Vous en trouvez dans toutes les religions des gens qui ont une relation parfaite avec Dieu, qui ont une relation normale avec Dieu, comme Dieu au départ avait voulu avoir une relation d'amour avec sa création. N'entrons pas, chers amis, dans l'éternité sans avoir fait cette démarche. L'éternité, c'est long, ça n'arrêtera jamais. Donc, nous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Que cette démarche, cette rencontre change votre vie ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, ton message a été annoncé. Nous croyons en toi. Nous croyons en Dieu d'amour, non pas un Dieu religieux. Nous t'avons rencontré en tant que Père et nous sommes tes enfants. Bénis chaque assistant ce matin, que chacun reçoive ta paix et ton amour. Amen.